Bonjour à toutes et à tous. Christophe, je viens pour vous accueillir dans votre émission Par ici les sorties. Nous voici dans la semaine de Noël. Et Noël, ben, vous le savez, c'est la trêve des confiseurs. Chacun se claque-mur pour fêter la naissance du Sauveur en famille ou avec des amis, pourquoi pas. Et ma foi, bien, l'actualité culturelle est un peu en sommeil. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vous permettre d'entendre à nouveau une émission que j'avais réalisée il y a 2 ans, dans l'atelier du peintre chartrain Antoine Vincent, peintre chrétien, il ne s'en cache pas. C'était donc le moment rêvé pour rediffuser cette émission qui retrace le parcours d'un très bel artiste, Antoine Vincent. Je n'en dis pas plus, je vous propose de pousser la porte de son atelier entre la haute et la basse ville de Chartres, dirons-nous.
Cela faisait bien longtemps que je me disais il faut interviewer Antoine Vincent, qui est un artiste chartrain extrêmement connu. Mais mon plaisir est double parce que je vous interviewe et je suis reçu dans votre atelier où vous m'avez dit ça sent l'huile de lin et la térébenthine, ça sent la peinture finalement, ça sent l'atelier d'artiste, un atelier à l'ancienne. Parlez-nous de ce petit lieu, vous y passez combien d'heures par jour, Antoine Vincent?
Toute la journée. Une partie de la nuit. Hier soir, j'ai travaillé jusqu'à minuit à un portrait que je devais finir. Voilà. Et j'y suis pratiquement la plupart de mon temps.
Et pendant toute cette journée, vous peignez, où est-ce qu'il vous arrive? Je vois qu'il y a plusieurs sièges, par exemple, là, il y a un fauteuil. Il y a des moments où vous passez du temps comme ça à méditer, à cogiter, à rêvasser, pourquoi pas?
À rêvasser, oui, enfin, bon, à bouquiner, et puis à faire des tas de choses que le peintre doit faire aussi. Préparer sa palette, converser avec quelquefois les modèles, recevoir de temps en temps, c'est assez rare, des acheteurs, voilà, et quelquefois des journalistes comme vous.
C'est important de passer du temps ici pour vous, c'est le bonheur?
Ah oui, c'est mon refuge. Ben bon, ceci dit, j'ai pas besoin de me réfugier plus que ça. J'ai une famille charmante, c'est normal, ce sont une femme que j'ai choisie et des enfants qu'elle m'a donnés. Mais voilà, je suis bien là, oui.
Une femme et des enfants que vous avez peints d'ailleurs à de nombreuses reprises. Mm-hmm. Ce sont parmi les tableaux sans doute les plus touchants. On sent un regard extrêmement tendre, me semble-t-il, en tout cas. Et enfin, on va en parler de tout ça, mais je voudrais qu'on revienne au début, peut-être, que vous nous disiez comment vous êtes devenu peintre. Où avez-vous grandi, en fait?
En réalité, mon grand-père était peintre professionnel, enfin, c'était son métier. Et j'ai peint avec lui, à l'âge de 8 ans, je peignais déjà à l'huile sur les bords de Seine avec lui. Voilà. Alors, donc, ça marque. Ça marque, et puis après j'ai vagabondé, j'ai fait du droit, de l'histoire, de la musique, et puis j'ai repris mes pinceaux, grosso modo, à 25 ans. Voilà.
Donc de l'âge de, on va dire, de 18 à 25 ans, vous avez vécu finalement et étudié et lu.
Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, j'étais inscrit à la fac en droit à Nanterre, en histoire aussi, et puis voilà, ça m'intéressait, mais vous savez, c'était pas ma vocation. Ma vocation, c'était d'être peintre. Voilà.
Et alors la musique, c'est important aussi. Souvent, on peut penser au violon de Paul Klee, par exemple. Vous jouez aussi?
J'ai remarqué que les peintres étaient en général assez musiciens. Tous mes amis peintres peignent ou dans le silence, ou entouré de musique classique en général, pas la musique qu'on entend sur les ondes ou dans tous les magasins à droite à gauche. Non, les peintres en général sont assez sensibles à la musique. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas, c'est un mystère, mais c'est un fait.
Ouais. Et pour ce qui vous concerne, vous travaillez en musique?
Oui, non, je commence dans le silence. Pour me concentrer. Et puis, quand une certaine fatigue arrive, une certaine fatigue physique ou intellectuelle, je mets une musique que j'aime pour me redonner un élan.
Et qui vient à la rescousse? C'est Bach, Beethoven, Mozart ou d'autres?
En général, c'est un long fleuve tranquille comme Parsifal de Richard Wagner. Ça, j'aime bien. Ça dure 5 heures, vous savez, Parsifal. Donc, on a le temps de bosser.
Et Wagner ne ressemble pas à votre peinture.
Wagner ne ressemble pas à ma peinture. Je ne sais pas. Si vous considérez que je suis un peintre sensible et intimiste, Wagner était un horrible type sur le plan humain. C'est peut-être pour ça. Mais non, en tout cas, vous savez, on a des périodes dans lesquelles on est plus sensible à Mozart, à Bach, à Wagner, à Beethoven, enfin bon, à Schumann. Et puis il y a des jours où on se met plus facilement du Wagner que du Chopin. Ça, ça dépend du temps, ça dépend de votre forme. Enfin, il y a des tas de facteurs qui entrent en compte.
Vous a-t-on appris à peindre ? Vous avez dit que vous aviez peint sur les bords de Seine avec votre grand-père. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui vous a initié, on va dire ?
Ben, c'est lui qui m'a initié, mais en réalité, celui qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est Philippe Lejeune. Philippe Lejeune qui avait un atelier à Étampes. Et un jour, je vais à Paris voir une exposition et je tombe sur une exposition de François Legrand qui était un de ses élèves. Et je me suis dit, il faut absolument que je prenne contact avec ce type-là. Et je me suis rendu compte qu'il était élève de Philippe Lejeune. Donc je suis allé voir Philippe Lejeune qui m'a tout de suite pris sous son aile.
Qu'est-ce qui vous avait plu, qu'est-ce qui vous avait séduit dans la peinture de François Legrand ?
Alors ça, c'est un grand mystère. Vous savez, vous êtes happé par une œuvre, vous ne savez pas pourquoi. Bon, ce qui m'a plu, c'est que déjà, il y a un métier que je n'avais trouvé nulle part ailleurs. Quand j'ai vu ça, j'avais presque 30 ans déjà. Et je suis tombé sous le charme. Ouais.
C'était dans quelles années à peu près ça ?
Ah, ça c'était en l'exposition de François à l'Orangerie de Bagatelle, ça devait être en 88-89, je me souviens bien. Voilà. Donc j'avais déjà un peu de bouteille.
Et on était aussi en plein, depuis déjà quelques temps quand même, dans l'art conceptuel, dans l'art, dans la non-peinture, etc. Et évidemment là, vous m'avez dit, j'ai trouvé quelqu'un qui avait du métier.
Et oui, bah ça, vous savez, le métier, c'est une chose qui s'est un peu perdue. L'art contemporain, c'est une sorte de paravent qui cache la véritable peinture contemporaine, l'art contemporain entre guillemets. Y a beaucoup beaucoup de jeunes qui trouvent tout seul ou qui cherchent avec les professeurs, mais qui se font rares. Et le plus difficile, c'est de trouver. Ouais. On ne trouve jamais rien. Degas disait de mon temps, on ne trouvait pas, on réussissait pas. Mais c'est toujours un peu vrai. On n'arrive jamais à faire ce pourquoi on est fait vraiment quand on est un artiste. Mais se donner les moyens techniques de faire l'œuvre pour laquelle on a été conçu. Ça, il y a peu de gens qui nous dispensaient cette formation. Et Lejeune est sans doute un des derniers à l'avoir dispensé.
Ça se passait comment, son enseignement ?
Oh, il est resté dans son coin, il peignait dans son coin, et de temps en temps, il passait dans les rangs. Et il nous faisait des réflexions, quelquefois pas très agréables, ce qui est bien normal. Et voilà, ça marchait comme ça. Et il a quand même formé pas mal de peintres. Hein. Et, Legrand, Debuchère, Verlucas, Rau, enfin bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà.
C'est une famille de peintres, ceux que vous venez de citer.
Ça s'appelle l'école d'Étampes. Et on est toujours tous en contact. Voilà. Ils sont plutôt parisiens en général. Moi, je me sens un peu seul à Chartres, mais c'est pas si loin de Paris, donc j'y vais régulièrement. J'y vais la semaine prochaine, d'ailleurs. Voilà.
Est-ce qu'il y a des éléments picturaux artistiques qui caractérisent cette école et quels sont-ils ?
Oh, en général, c'est la peinture sur le motif. Bien que Lejeune n'ait pas fait de peinture sur le motif, tant que ça, ce qui caractérise l'école, c'est la peinture sur le motif. C'est-à-dire qu'on avait un modèle. On avait un modèle et on continue, nous continuons, chacun dans son coin, à faire de la peinture sur le motif. Ouais. Voilà.
Et de temps en temps, vous allez vous voir, vous regardez comment évolue le travail ?
Oui, on continue à se voir. On fait tous partie de la Fondation Taylor en général. On fait quelquefois des expositions communes. J'espère qu'on pourra en faire une à Chartres, je ne sais pas encore. Mais voilà.
Parlez-nous de la Fondation Taylor que j'ignore.
La Fondation Taylor, a été créé par le baron Taylor dans les années 40, 1840. Qui est une fondation qui aide les artistes et qui permet aux artistes d'exposer. Voilà. Mais je ne peux pas vous en parler plus que ça. J'en fais partie comme beaucoup de peintres parce que j'ai une cotisation qui est ad vitam aeternam. On doit régler 100 euros, je crois, pour toute sa vie. C'est peanuts. Mais je ne peux pas vous en parler plus que ça, de la Fondation Taylor. Je sais où elle est, les rues de la Bruyère à Paris. Mais voilà.
Vous avez fait d'histoire, j'imagine que vous avez aussi abordé, en tout cas peut-être à titre privé, l'histoire de l'art. Quels peintres ont compté finalement dans votre formation ?
Bon, comme tous les peintres, je pense, Velázquez, Degas, Rembrandt. Pour moi, c'est ma trinité personnelle, picturale, je pense, je parle. Il y en a une autre plus célèbre. Voilà, c'est ma trinité personnelle. Ouais. Voilà. Et ça ne me quitte pas.
Tout à l'heure, vous avez dit, faut pas croire qu'on trouve, on cherche, mais on ne trouve jamais. Est-ce que c'est frustrant ou au contraire, est-ce que c'est excitant parce que
si on avait trouvé, on poserait ses pinceaux et puis on irait se coucher. Voilà, donc il faut remettre sur le métier tous les jours.
Oui. Voilà. Et la quête de l'artiste, est-ce qu'elle est technique, est-ce qu'elle est évidemment picturale, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Est-ce qu'à travers la peinture, on essaie de toucher quelque chose?
Oui, évidemment, parce que si ce n'était que pictural, que... Bon. On serait tous à peu près au même point, tout le monde y arriverait, je suppose. S'il y avait des recettes, tout le monde les applique, n'importe qui pour les appliquer. Mais c'est un peu comme l'écriture ou la musique. Voilà, quand on a quelque chose à dire, on le dit. Alors nous, on le dit avec les pinceaux, avec la couleur.
Alors, dans votre peinture, moi, je ne suis pas un spécialiste du tout de la peinture, mais ce que j'aime chez vous, c'est évidemment que vous peignez des choses que nous pouvons voir, nous, tous les jours, que vous peignez vos proches, mais il y a une sorte de réel qui n'est pas sublimé, mais c'est toute la beauté, finalement, de l'existence, la fragilité. Il y a quelque chose de poignant derrière votre apparente simplicité, quelque chose de poignant.
Écoutez, je crois que tous les peintres cherchent à sublimer le réel. C'est notre fonction, c'est notre but. C'est le côté chrétien qui veut ça. Puis en plus, faut dire une chose, c'est que la peinture est possible grâce au christianisme. Parce que finalement, nous sommes la seule religion qui permette de représenter Dieu. Et comme Dieu s'est fait homme, qui s'est incarné en son fils Jésus-Christ, quand je fais le portrait de quelqu'un, finalement, je me mets en contact avec le divin, à mon humble niveau. Je pense que tous les peintres, même s'ils n'en ont pas conscience, sont à la recherche de ça.
Finalement, la peinture occidentale est fille du christianisme, parce que que vous disiez, oui, chez les juifs, on ne peut pas peindre de visage, ni chez les musulmans.
Non, chez les musulmans. Et puis, ça vient, à mon avis, de Constantinople, hein, par ce signe, tu vaincras ce qu'a dit Dieu à Constantin. On le retrouve d'ailleurs dans les fresques de Piero della Francesca à Arezzo, où il y a toute cette partie-là de l'histoire de l'humanité qui est représentée. Il a fait ça au XVe siècle, à la fin du XVe siècle. Et moi, je suis très sensible au côté oriental de la chose. Tous mes enfants ont des saints patrons grecs, hein, Grégoire de Nazianze, Basile de Césarée, Théophile d'Antioche et Athanase. Athanase, il était de... vous trouverez, je me souviens plus. Mais... Et puis j'ai un Joseph aussi, évidemment. Mais...
J'ai vu qu'il y a aussi des icônes chez vous. Je suis très indiscret.
Oui, parce que le jeune nous a appris à faire ça. Il y en a une aussi là-bas, si vous vous tournez, là. Voilà, ça c'est un Saint-Michel. Le jeune nous a appris à faire ça. Il savait tout faire.
Cette icône, vous l'avez écrite vous-même, alors ?
Oui, voilà. Voilà. Il nous a appris à poser la feuille d'or, il nous a appris aussi à graver. Ce bonhomme était un bonhomme extraordinaire. Ouais. Voilà. Voilà. Et il nous manque tous les jours. Voilà.
Donc, si je comprends bien, la foi, c'est quelque chose d'important pour vous en tant qu'homme, ça je l'imagine, j'en suis certain. Comme artiste aussi, est-ce que par exemple vous démarrez après une prière, hein, est-ce qu'il y a une prière préalable avant votre séance de travail ou comment
oui, tous les matins j'ai une prière, mais finalement vous savez, la peinture c'est presque la chair de la prière. Finalement, quand je peins, j'ai l'impression de prier et je me sens vraiment en contact un tant soit peu avec le divin. S'il n'y avait pas cette inspiration, ce serait pas vivable, parce que c'est pas facile tous les jours. Ouais. Voilà.
C'est pas facile tous les jours parce que c'est difficile, comme vous le disiez, on ne trouve pas tout le temps.
C'est pas facile tous les jours pour un peintre, déjà, de vivre, de faire vivre une famille. On est à une époque où les choses de l'esprit n'intéressent plus grand monde. Hein. Voilà. C'est pas facile tous les jours de se mettre, d'aller dans son atelier et puis de se mettre à travailler. Voilà, il faut trouver des trucs. Alors, on balaye son atelier, la prière du matin, enfin, il y a des tas de choses à faire. Puis après, on peut se mettre au travail. C'est vraiment un travail.
Je pense à Louis Powell, ce qu'il disait de son père, il allait au ciel avec les mains parce que c'était, lui, pas un artiste mais un artisan, c'est un peu ça, il y a un peu ce sentiment-là.
Oui, il y a un côté artisan, mais c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant, mais le côté artisan, c'est évident. Oui.
Quel regard vous portez sur le marché de l'art aujourd'hui ? Vous avez dit tout à l'heure, c'est pas facile aujourd'hui pour un...
L'horrible non, l'horrible non.
Mais il existe.
Oui, il existe, il faut faire avec. Vous savez, en ce moment, là, il y a la FIAC est ouverte, mais à la FIAC, c'est toujours les 10 mêmes artistes qui exposent depuis des années. Bon, je les citerai pas, c'est pas la peine. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt quand même, c'est... Voilà. Le marché de l'art, visiblement, qui dit marché dit acheter une œuvre pour qu'elle soit rentable. C'est ça. Bon, vous allez acheter une toile 1 million d'euros et vous voudrez que quelques années après, elle vous en rapporte 2. Mais c'est une vision de l'art qui m'est totalement, totalement étrangère. Voilà. Bon, il faut vivre, mais. Cette notion de marché, je trouve que ce sont deux choses incompatibles. Ouais. Incompatibles. Si on pense, quand on peint, qu'on va vendre ça, le fruit de notre travail, tant, c'est fichu. C'est fichu. Non, on doit penser qu'au tableau.
Qu'est-ce qui vous inspire ? Est-ce que vous travaillez sur commande ou est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vont... Ouais, comment ça se passe, l'inspiration, en fait ? Comment on démarre, finalement, un tableau ?
Comment on démarre un tableau ? Alors ça... Mystère, oui, parce que j'ai des commandes, comme là j'ai un portrait à faire, là, en vous attendant, j'étais en train de regarder comment j'allais m'y prendre. Mais même quand on a une commande, il faut trouver l'inspiration. D'abord, il faut connaître la personne, le portrait, et puis converser avec elle, et puis trouver le bon côté. Vous savez, je regardais, je vous cache pas que de temps en temps, j'ai des portraits d'après photos à faire. Je les fais si c'est moi qui fais les photos d'abord, condition sine qua non. Et puis, en regardant les photos du portraituré, je me dis, mais c'est pas lui, même sur les photos, donc c'est à moi de trouver... trouver le point de ressemblance. Ah. Alors, c'est un travail de chien, portraitiste, je vous dis tout de suite.
Le point de ressemblance, c'est presque le secret de la personne, alors finalement, sa singularité.
Oui, Oui, c'est un côté un peu voyeur.
On est aussi là encore dans le mystère de l'incarnation.
On peut dire des choses comme ça, oui.
Je disais, vous avez souvent peint vos enfants, votre épouse. C'était parce qu'ils sont à côté de vous ou parce que vous souhaitiez leur dire quelque chose ou...
Oui, bah d'abord, il faut que je les nourrisse, donc je les exploite forcément un petit peu. Ceci dit, non, ma femme est adjointe à la ville, donc non, je la nourris pas complètement. Puis en plus, ce sont des modèles, je les ai sous la main. Enfin, je les ai plus maintenant parce que ils sont tous partis. Hein, voilà. Maintenant, je vais peut-être avoir des petits enfants, mais enfin, je les aurai pas sous la main. Voilà. Donc, là, il va falloir que je change de modèle.
La cathédrale, elle est pas loin de chez vous. C'est aussi une source d'inspiration.
Je la vois même du fond du jardin. Voilà. Oui, c'est une source d'inspiration. De vrai que vous voyez, il y a un tableau là. Il y a deux tableaux là sur la cathédrale. Voilà. Il y en a un en ce moment au Grand Monarque parce que je fais une exposition. Voilà. Et puis je fais une exposition à Beyrouth après en février. Il y aura aussi sur la cathédrale. Voilà.
On vous verra où donc à Beyrouth? Comment ça s'est passé cette exposition?
La galerie Sherif Tabet. Voilà, me fait une exposition au mois de février. Voilà. Mais une partie des toiles est déjà partie.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut admirer au Grand Monarque? Vous avez choisi de montrer quelle partie de votre travail?
Oh, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y a une grande cathédrale. Et puis j'ai un portrait de mon cinquième fils. Puis j'ai des portraits. J'ai un portrait de groupe. Voilà. J'ai un intérieur de Nohant. Parce que j'avais travaillé à Nohant, chez Georges Sand. Voilà, il y a des différentes choses.
Voilà. De mots, je vois que vous avez une bibliothèque aussi. Elle est dans l'atelier, la bibliothèque, ça veut dire
non,
que...
Non, il n'y a pas que dans l'atelier, il y en a plein dans la maison aussi.
Mais vous en avez une quand même dans l'atelier. Hein,
Dans l'atelier, c'est tout ce qui touche à la peinture. Ouais. Tout ce qui touche à la peinture et la musique, c'est dans l'atelier. Voilà, parce que j'ai mon piano qui est là. Voilà.
Donc vous jouez de temps en temps?
Je suis un peu rouillé maintenant. Oui, j'ai le piano qui est là, voilà.
Alors vous avez aussi tout ce qu'on s'attend à découvrir chez un artiste, mais qui ne doit pas exister finalement tant que ça, en tout cas pas dans l'art contemporain, où il y a si peu de peinture et tellement de discours. Là, vraiment, il y a des dizaines et des dizaines de pinceaux, des palettes, tout ça, c'est important d'avoir ça autour de soi. Hein.
Oui, alors les palettes, il y a quand même des palettes, j'ai au moins une palette de mon grand-père, là, voilà, que j'ai conservée précieusement. Voilà. J'ai même aussi, non, les pinceaux c'est plus la peine, les types de couleurs c'est plus la peine, ça fait, ils sont même morts depuis longtemps. Mais oui, tous les pinceaux, j'ai pas mal de pinceaux, oui. Mais je les conserve, peut-être que je fasse un peu le ménage, mais je les conserve. Voilà.
Merci beaucoup Antoine Vincent de nous avoir accordé ces 25 minutes d'interview, et je rappelle donc qu'on peut découvrir une toute petite partie de votre travail au Grand Monarque, et puis faudra y aller à Beyrouth. Est-ce que quand même il y a une exposition de prévue ici ou pas loin dans les mois, les années à venir?
Normalement je ferai une exposition à Paris, j'ai pas fait encore là, il faut encore que je connais pas les dates. Moi, à Paris, j'ai une galerie rue La Condamine à Paris, une galerie Ad Solem. Voilà. Je ne peux pas encore vous donner de date. Je suis désolé.
Ad Solem, que nous connaissons, puisque c'est aussi une maison d'édition de poésie, Ad Solem.
Oui, c'est quelqu'un de très très intéressant. Et un esprit fin, voilà, et qui aime la peinture. Ce qui arrange tout.
Un grand merci à vous, Antoine Vincent. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'était un entretien avec cet artiste délicieux, Antoine Vincent. Alors évidemment, cet entretien a été réalisé il y a 2 ans, donc pas d'exposition pour l'instant des œuvres d'Antoine Vincent au Grand Monarque, mais je suppose que nous aurons l'occasion de revoir ses peintures, que ce soit à Chartres, à Paris ou ailleurs. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve dans 4 semaines pour une nouvelle édition de votre magazine culturel de Radio Rancière, par ici les sorties. Excellente fin de journée à toutes et à tous. À très bientôt.